suis Youssouf Sangaré, islamologue, maître de conférences à l'Université de Clermont-Auvergne. Et je suis ici pour vous parler de mon livre « Le scellement de la prophétie en islam » issu de ma thèse de doctorat soutenue en 2016 à l'Université de Strasbourg. Lorsque l'on parle de scellement de la prophétie en islam, on parle d'une notion complexe, mais surtout d'une notion paradoxale. Pourquoi ? Parce que l'idée que la prophétie est scellée s'appuie sur un unique passage coranique qui se trouve à la sourate 33 du Coran, au verset 40, où l'on trouve à propos de Mohammed l'expression « Khatam Nabiyyin » que l'on traduit par « sceau des prophètes ». À partir de cette expression, les auteurs musulmans sont arrivés à construire ce que Régis Blacher appelle une doctrine théologique fondamentale en islam. Dans le livre, j'essaye de montrer comment cette construction s'est faite. Par exemple, dès la mort du prophète de l'islam en 632, un groupe de compagnons discutant des passages coraniques vont dire que l'expression « Khatam Nabiyyin » signifie « pas de prophète après Mohammed ». Et lorsque Aïcha, épouse du prophète, a entendu ça, elle s'adresse à ce groupe de compagnons et dit « dites qu'il est le sceau des prophètes, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de prophète après lui ». L'attitude d'Aïcha, en fait, qui soulève aussi d'autres questions chez les auteurs musulmans, met en exergue la polysémie du mot « khatam ». Formé sur la racine trilitaire « khatama », le verbe « khatama » peut être traduit par « clôturer, sceller, marquer, conclure ». Par exemple, dans les traditions prophétiques, les hadiths, on trouve des hadiths qui parlent de « khatm nubuwa » pour signifier la marque qu'aurait eu le prophète de l'islam sur l'une de ses épaules. Marque qui serait, selon les auteurs musulmans, le signe d'authenticité de sa prophétie. Un autre aspect de la polysémie de ce mot, c'est par exemple ce qu'en dit l'exégète At-Tabari qui est mort en 923. Pour lui, une des significations de l'expression coranique serait que Mohammed est celui qui vient mettre le sceau, celui qui vient valider le message des prophètes passés. Et pour ça, il va s'appuyer sur une autre expression coranique, le « musaddiq », celui qui valide, qui authentifie. Un autre aspect de la polysémie de ce mot, c'est aussi l'interprétation que l'on trouve chez Al-Ghazali qui est mort en 1111. Pour lui, ce passage coranique fait partie des versets qui sont équivoques dans le Coran, qui sont ambigus, ce qui signifie que l'on peut voir que l'on doit les interpréter de manière rationnel. Et Al-Ghazali dit, par exemple, on peut dire que cette expression signifie que Mohammed est le prophète qui a fait preuve de la plus grande résistance, de la plus grande résolution dans la transmission de son message. L'époque d'Al-Ghazali, c'est la période où s'est imposée l'interprétation selon laquelle la prophétie est close par consensus. Dans le Coran, plusieurs termes sont employés pour qualifier la fonction de ceux qui sont chargés par Dieu de transmettre un message de sa part. On trouve par exemple l'expression « Nabi » que l'on traduit par « prophète ». Et l'on trouve aussi le mot « Rasoul » envoyé messager. Mohammed est qualifié par les deux expressions. Dans le Coran, on ne trouve pas une distinction décisive de ces deux expressions. Cette distinction sera faite plus tard par les auteurs musulmans, notamment au Xe siècle. Quoi qu'il en soit, un prophète pour le Coran est celui que Dieu choisit, qu'il élue pour transmettre un message de sa part aux humains. Et quant à la prophétie, c'est ce processus à travers lequel Dieu envoie des humains pour transmettre un message en son nom. Quand Mohammed s'est présenté par exemple comme un prophète, il a dû affronter les moqueries et railleries de ses contemporains. Pourquoi ? Parce que ces derniers considéraient que ce que Mohammed présentait comme un message divin était en tout point identique au discours des poètes et des devins. Et si Mohammed voulait montrer qu'il était différent des devins et des poètes, ils l'ont mis au défi d'être capable de réaliser des miracles ou de prédire l'avenir. Une exigence qui est rejetée par le Coran, pour qui un prophète n'a pas pour vocation de réaliser des miracles, sa tâche n'est pas non plus de prédire l'avenir, mais de prévenir contre le châtiment divin le jour du jugement dernier. Raison pour laquelle, dans le Coran, Mohammed est qualifié d'être Bachir, annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui croient en Dieu et suivent ses commandements, mais aussi il est Nadhir, c'est-à-dire celui qui avertit, qui tire l'alarme contre ceux qui ne croient pas en Dieu et ne suivent pas ses prophètes. L'enjeu d'une telle étude, c'est de montrer comment se fait la construction des doctrines en islam. On pense parfois, à tort, que les doctrines islamiques sont les mêmes depuis le 7e siècle jusqu'à nos jours, qu'elles sont intangibles. Notre étude prouve le contraire. En fait, notre étude met en exergue ce que Mohamed Harkoun affirmait, toute doctrine est le fruit d'une construction sociale. Ce qui signifie que l'on ne peut comprendre une doctrine, quelle que soit la religion, sans avoir une connaissance approfondie des contextes dans lesquels celle-ci a été façonnée, débattue et transformée. Un autre intérêt de cette étude, c'est de comprendre la place centrale qu'elle occupe dans les écrits de penseurs musulmans contemporains. L'enjeu principal des débats sur le scellement de la prophétie, c'est le suivant. Est-ce que la fin de la prophétie fait de l'islam une religion dynamique, ouverte, dans laquelle l'homme doit désormais assumer, comme le dit Mohamed Abdou, ses responsabilités et faire face à l'inconnu en s'appuyant sur sa raison? Ou est-ce que la fin de la prophétie fait de l'islam une religion statique, close, qui renferme le fidèle dans les marges étroites d'une tradition, d'un texte sacré? Pour le penseur tunisien Abdelmadjid Sharfi, c'est cette seconde option, cette seconde lecture qui a conduit au monopole d'une poignée d'individus sur les textes religieux et aussi a conduit à mettre sous contrôle la pensée religieuse. Par conséquent, réinterpréter cette notion permet à des penseurs musulmans contemporains de contester ce monopole et de redéfinir la place de l'autorité en islam. Un autre enjeu de ces débats, c'est la question du takfir, de l'excommunication, le fait d'exclure les autres. Par exemple, la différence de conception entre le sunnisme et le chiisme a conduit à des excommunications. Pour les chiites, la fin de la prophétie, ce n'est pas la fin du dialogue entre le ciel et la terre. La fin de la prophétie, au contraire, initie le cycle des imams. À la prophétie succède l'imamologie. Les imams sont ceux par qui on accède au sens caché, profond et actualisé du message de Mohammed. Donc, cette différence de conception a conduit à des excommunications. Aussi, à l'intérieur du sunnisme, les différences de conception ont aussi engendré des excommunications. Et à ce propos, Al-Ghazali va écrire dans un de ses ouvrages, il va développer toute une pédagogie pour prévenir des dangers de l'excommunication. Et il va dire que « At-takfir fihi khatarun wa sukut la khatar fihi » Dans l'excommunication, dans le fait d'exclure les autres, il y a toujours un péril. Alors que le fait de s'en abstenir, il n'y a pas de péril à la matière. Et donc, cette question de l'excommunication est aussi un des enjeux au cœur des débats actuels. Pour beaucoup de penseurs musulmans contemporains, à l'image de Mohamed Iqbal, le message de Mohamed, la prophétie de Mohamed est arrivée en un moment précis de l'histoire humaine, celle de la maturité. Pour Iqbal et pour d'autres penseurs, chaque prophète a été envoyé avec un message adapté à la phase de développement intellectuel, rationnel et éthique de l'humanité. Donc le message de Mohammed a été envoyé en une période précise, celle de la maturité humaine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pour Iqbal que Mohammed et les prophètes qui l'ont précédé, à la fois leur message s'adapte et épouse la réalité et non pas s'impose à elle. Et aussi pour Iqbal, puisque le message de Mohammed est arrivé dans la phase de maturité de l'humanité, cela signifie que l'homme était désormais capable de ne plus être sous la tutelle du divin. Il était désormais capable de se conduire à travers sa faculté rationnelle. On peut ainsi se poser la question, est-ce que la fin de la prophétie ne signifie pas la fin de la religion? Le penseur iranien Abdelkarim Sourouche et aussi le penseur pakistanais Fazlur Rahman répondent que non. Pour eux, dans cette nouvelle phase de l'humanité, où il n'y a plus besoin de prophètes, l'homme aura toujours besoin de s'appuyer sur l'enseignement coranique, à une seule condition, que la lecture du texte coranique soit dynamique, que ce soit une lecture qui soit renouvelée et en fonction des réalités et des défis auxquels l'homme fait face.